Au début de l'été, les élèves de toute la Grande-Bretagne attendaient avec impatience la fin de l'année scolaire et le début des vacances. Parmi eux se trouvait également Daniel Jones de East Ilbury, dans le comté d'Essex. Le matin du 18 juin 2001, Daniel se préparait pour l'école comme d'habitude. Vers 7h55, elle fit ses adieux à sa famille et se dirigea vers l'arrêt de bus pour prendre le bus scolaire. À 14h30, le téléphone sonna chez la famille Jones. À l'autre bout du fil, un enseignant de Daniel demandait pourquoi elle avait manqué les cours. Cette question frappa les parents de Daniel comme un coup de tonnerre. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur fille n'était pas apparue à l'école. Elle n'avait aucune raison de manquer les cours. Daniela Sarah Jones est née à l'automne 1985 dans le comté d'Essex. Ses parents, Linda et Tony Jones, vivaient avec Daniela et ses deux jeunes frères dans le petit village d'East Tilbury. Daniela était plutôt réservée, préférant le confort de la maison et parfois timide en présence d'autres personnes. Néanmoins, elle avait un excellent sens de l'humour et beaucoup d'amis. Ce qu'elle aimait le plus, c'était les animaux. À la maison, elle avait deux petits lapins doux qu'elle adorait plus que tout. Quand les parents de Daniela reçurent un appel de l'école, ils furent profondément troublés par cette nouvelle. Ils pensaient que même si leur fille avait décidé de sécher les cours, elle rentrerait sûrement avant la tombée de la nuit. Après tout, Daniela avait toujours peur d'être seule la nuit. Toute la journée, les proches et amis de Daniela essayèrent de la contacter. Ils envoyèrent des messages et l'appelèrent. Mais il n'y avait que le silence. Ce comportement n'était pas du tout typique de Daniela, ce qui inquiétait encore plus tout le monde. L'histoire de Daniel laissait de nombreuses questions sans réponse. Elle tenait toujours ses parents informés de ses plans, même quand elle voulait juste rendre visite aux voisins. D'habitude, elle appelait chez elle dès qu'elle atteignait sa destination. Quand il fit nuit et que Daniel n'était toujours pas rentré, ses proches commencèrent à s'inquiéter et décidèrent de commencer à chercher. Linda Jones resta à la maison, espérant un appel ou le retour de sa fille. Vers minuit, quand il devint évident que quelque chose avait dû arriver à Daniel, les parents contactèrent les autorités pour demander de l'aide. Les enquêteurs interrogèrent d'abord l'entourage de la disparue. Après avoir constaté que Daniel n'avait aucune raison de quitter la maison et que toutes ses affaires étaient encore en place, il fut décidé de commencer immédiatement les recherches. Le frère cadet de Daniel fit une observation étrange. Le matin, il avait vu par la fenêtre sa sœur quitter la maison et emprunter le chemin habituel, mais elle se retourna soudain et prit une autre direction. Cela lui sembla inhabituel. La recherche fut lancée à grande échelle. Les enquêteurs, les maîtres chiens avec leurs chiens renifleurs, les proches et les amis suivirent tôt la route habituelle de Daniel qu'elle prenait normalement pour aller à l'école. La mère ne ferma presque pas l'œil de toute la nuit. Elle attendait que sa fille rentre comme d'habitude à tout moment. Pendant les 3 jours suivants, la famille fouilla chaque coin de la maison, mais ne trouva rien de significatif. Toutefois, ils réussirent à trouver des gens qui avaient vu la disparue ce matin-là. Un couple d'étudiants l'avait vue se rendre au magasin à côté de l'arrêt de bus. Il s'avéra qu'elle n'était jamais montée dans le bus scolaire. Les recherches s'étendirent rapidement. La police passa de maison en maison dans la petite ville. Les enquêteurs parlèrent avec tous les résidents et leur demandèrent de vérifier leurs hangars et annexes. En même temps, la réponse de la communauté fut écrasante. Tous tentaient de soutenir la famille et beaucoup de locaux participaient eux-mêmes à la recherche. Mais même après plusieurs jours de recherche intense, aucune trace ne fut trouvée. Les proches et les connaissances de la disparue étaient désespérés. Néanmoins, ils continuaient de croire que leur fille bien-aimée était en vie et rentrerait bientôt à la maison. Les autorités locales reconnurent la gravité de la situation concernant la disparue Daniel et transférèrent l'affaire à l'équipe d'enquête centrale. Ils désignèrent un agent spécial comme interlocuteur pour la famille. Sa mission était de soutenir les proches pendant toute l'enquête et de leur transmettre rapidement les nouvelles informations. L'agent devait établir une relation de confiance avec les proches de Daniel pour mieux comprendre l'atmosphère familiale et dresser un profil de la disparue. Lors de la conversation, les parents exprimèrent leurs inquiétudes concernant la relation de leur fille avec l'oncle. Stuart Campbell, le mari de la sœur de Tony Jones, était proche de Daniel. Ce maçon de 43 ans et père de 2 enfants passait souvent du temps avec sa nièce et ses frères lorsqu'ils étaient là à plus jeunes. Il jouait avec eux et les traitait comme ses propres enfants. Lors d'une conversation avec un enquêteur, Madame Jones partagea ses observations sur Stuart. Selon elle, il donnait l'impression d'être quelqu'un avec une haute estime de soi, bien qu'il possédât également un certain charisme. Son mari Tony entretenait une relation amicale avec lui, mais avouait occasionnellement à sa femme qu'il y avait quelque chose chez Stuart qui provoquait chez lui un malaise vague. Avec le temps, Stuart commença à accorder une attention particulière à Daniela, sa nièce. Il avait pris l'habitude de la récupérer après l'école et de lui proposer un covoiturage. Cela mettait Daniela mal à l'aise, surtout en raison des regards curieux de ses camarades de classe. Stuart l'invitait fréquemment au cinéma et au café et tentait obstinément de tenir sa main pendant leur promenade. Les visites de Stuart chez la famille Jones devinrent trop fréquentes, jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine. Finalement, Linda et Tony décidèrent de limiter ces visites chez eux. Tony se souvenait d'un incident où Stuart, assis à côté de Daniela sur le canapé, insistait lourdement pour savoir pourquoi elle était si gênée et rougissante. Quand Tony entendit cette conversation, il décida d'intervenir et demanda à Stuart ce qu'il se passait. Campbell fit immédiatement un geste de la main pour indiquer que tout allait bien et s'éloigna rapidement. Après la conversation avec le représentant des autorités, les parents de Daniel partagèrent qu'ils commençaient seulement à comprendre. Il pourrait y avoir plus derrière le comportement de Stuart que la relation habituelle entre un oncle et sa nièce. Il semblait que Daniel avait tenté de s'éloigner de lui. Linda et Tony admettaient qu'ils avaient précédemment interprété ses actions comme une affection sincère et le désir d'être plus proche de leur famille. Et tout ce qui leur semblait étrange, ils le mettaient sur le compte de malentendus innocents. Ils essayaient de ne pas trop y prêter attention, de peur que cela nuise gravement aux relations familiales si leurs soupçons s'avéraient infondés. Après tout, la sœur biologique de Tony était l'épouse de Stuart. Un jour après que Daniel eut cessé de donner de ses nouvelles, Tony décida de rendre visite à son parent. La maison l'accueillit cependant dans le silence. En regardant par la fenêtre, il remarqua avec surprise un système de vidéosurveillance dans le salon, ce qui lui parut inhabituel. Encore plus étrange était le comportement de Stuart Campbell quand Tony le rencontra finalement. Il semblait complètement indifférent à la disparition de Daniel. De plus, Stuart était le seul qui ne montrait aucun intérêt à sa recherche. Pendant ce temps, les médias locaux continuaient de couvrir intensément la disparition de Daniel Jones. Face à l'intérêt croissant du public, les représentants des forces de l'ordre décidèrent d'organiser une rencontre avec les journalistes pour fournir des informations officielles sur l'affaire. Lors d'une rencontre avec des journalistes, les enquêteurs ont partagé des détails sur la disparition de Daniel. Ils ont demandé aux téléspectateurs des informations locales de signaler tout renseignement pouvant aider dans la recherche. Cette démarche s'est avérée fructueuse. De nombreux appels ont commencé à affluer au poste de police. L'un d'entre eux a particulièrement intéressé les enquêteurs. Un témoin a rapporté avoir remarqué une fille ressemblant à Daniel le matin où elle avait été vue pour la dernière fois. Elle se tenait à côté d'une camionnette bleue et se disputait bruyamment avec un homme. Fait intéressant, l'oncle de Daniel, Stuart Campbell, possédait une camionnette bleue similaire. Ce détail a éveillé de sérieux soupçons chez la police. Des craintes sont apparues que Campbell ait pu enlever sa nièce dans une direction inconnue. Avant d'inviter la personne suspecte à un entretien, les enquêteurs ont décidé d'examiner son passé. Ce qu'ils ont découvert les a grandement préoccupés. Il s'est avéré que cette personne avait déjà attiré l'attention des forces de l'ordre il y a de nombreuses années. À la fin des années 80, elle avait été arrêtée pour comportement inapproprié envers une jeune personne. Elle avait plaidé coupable, mais s'en était sortie avec une peine avec sursis et avait quitté le tribunal en personne libre. Linda et Tony savaient tous deux que leurs nouveaux parents avaient eu des problèmes avec la loi dans le passé. Cependant, lorsqu'ils essayaient d'en savoir plus, Stuart esquivait et assurait qu'il s'agissait de bagatelles. Il convainquait tout le monde qu'il avait été victime de diffamation puisque le tribunal l'avait finalement acquitté. L'enquête plus approfondie a conduit à des révélations choquantes. La police a découvert environ 30 cas où le nom de Stuart Campbell apparaissait. Il s'est avéré que, pendant de nombreuses années, il attirait de jeunes femmes en se faisant passer pour un photographe en vogue. Une fois seul avec elles, il les forçait à participer à des séances photos douteuses, prétendant qu'il s'agissait de clichés pour des magazines luxueux. Compte tenu du passé de Campbell et de sa relation inhabituelle avec Daniel disparu, les enquêteurs devaient soit écarter les soupçons à son encontre, soit trouver des preuves de son éventuelle implication dans la mystérieuse disparition de sa nièce. Comme Daniel restait introuvable, les enquêteurs ont développé la théorie que Stuart Campbell la retenait peut-être contre son gré dans un endroit inconnu. Ils ont organisé une surveillance dans l'espoir qu'il les conduirait à l'endroit où se trouvait la disparue. Cependant, son comportement n'a fait que renforcer les soupçons des forces de l'ordre. Il ne montrait pas l'inquiétude qu'on attendrait d'un oncle dont la nièce avait disparu, sans laisser de traces. Au lieu de cela, Campbell passait étrangement du temps sur des parkings à photographier des voitures ressemblant à sa propre Nissan argentée. Lorsqu'il est devenu clair que la surveillance ne donnait pas les résultats escomptés, les enquêteurs ont décidé d'arrêter Campbell. Le 23 juin, 5 jours après la disparition de Daniel Jones, Stuart Campbell a été placé en garde à vue. Lors de l'interrogatoire par les enquêteurs, il a été clairement fait comprendre à Campbell qu'ils avaient de bonnes raisons de croire qu'il était au courant de la situation concernant Daniel. Cependant, Stuart a immédiatement commencé à tout nier, affirmant n'avoir aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. De plus, il a assuré avoir une relation étroite et de confiance avec sa nièce. Selon Stuart, les relations de Daniel avec ses parents, Tony et Linda Jones, s'étaient détériorées à mesure qu'elles grandissaient. Il a raconté qu'il jouait le rôle de médiateur entre Daniel et ses parents pour aider la famille Jones à éviter une rupture, car selon ses dires, ils étaient au bord de la séparation. Au cours de la conversation, il est apparu que Stuart Campbell avait un alibi solide. Au moment de la disparition de Daniel, il n'était pas à East Hillbrook. Il s'était rendu dans la ville voisine pour acheter des matériaux de construction afin d'aider son voisin dans des travaux de rénovation. Il n'avait pas de reçu car ce magasin n'avait pas les marchandises nécessaires. Sur le chemin du retour, il s'était arrêté pour appeler sa femme et l'en informer. À son retour chez lui, il s'était immédiatement rendu chez le voisin pour poursuivre les travaux de rénovation. L'histoire de l'affaire Daniela Jones a laissé de nombreuses questions sans réponse. Malgré l'alibi douteux de Campbell, les forces de l'ordre n'ont pas pu trouver de raison suffisante pour le maintenir en détention. Il a été libéré sous caution jusqu'à la fin de l'enquête. Compte tenu du passé de Campbell, la perspective de sa libération inquiétait grandement les enquêteurs. Ils soupçonnaient qu'il pourrait représenter un danger, mais n'avaient pas de preuves solides pour porter plainte. Dans ce contexte, il avait été décidé de perquisitionner à nouveau la maison de la famille Jones. Lors de la fouille de la chambre de Daniela, ils ont trouvé une trousse avec 2 notes. La première disait « Bonjour, princesse. Au cas où tu n'aurais pas remarqué mes messages précédents, j'ai décidé d'en laisser un autre. Je veux que tu saches. Ton sourire me manque. Bisous. » Lorsque les enquêteurs ont montré ces notes à Linda Jones, Elle a été choquée et a déclaré les voir pour la première fois. Elle a raconté que toute la famille Jones était partie en vacances quelques semaines avant la mystérieuse disparition de Daniela. Linda soupçonnait que Stuart aurait pu s'introduire dans la chambre de Daniela pendant leur absence et laisser ses messages. Santacero, le père de Daniela, s'est souvenu d'un détail important. Avant leur départ, Campbell avait installé une nouvelle porte arrière dans leur maison. Un soupçon est conné qu'il aurait pu faire un double de la clé de la nouvelle porte à ce moment précis. L'enquête a conduit à la nécessité de fouiller la maison de la famille Stuart Campbell. Après avoir obtenu l'autorisation appropriée, les enquêteurs ont commencé l'inspection. Une grande quantité d'équipements photographiques a été découverte dans la maison, ce qui en soi n'éveillait pas de soupçons. Cependant, les découvertes ont pris une tournure inquiétante. Parmi les effets personnels de Campbell, des images préoccupantes ont été trouvées. Les photographies de jeunes personnes étaient pas de nature inappropriée et semblaient avoir été prises avec l'appareil photo du propriétaire lui-même. De plus, des images de contenu similaire téléchargées depuis Internet ont été trouvées. Les découvertes les plus troublantes attendaient les enquêteurs dans le grenier. Dans un sac double, il y avait des objets qui donnaient à la matière à réflexion. Des sous-vêtements, des moyens de contention et des jouets pour adultes. Une paire de chaussettes blanches avec des traces à peine visibles a attiré une attention particulière et a été envoyée pour un examen plus approfondi. Au cours de l'inspection, une camionnette bleue appartenant à Campbell a également été saisie. Stuart Campbell a affirmé avoir des informations selon lesquelles Daniel n'avait pas disparu, mais avait elle-même décidé de quitter la maison en raison de désaccords constants entre ses parents. Pour confirmer ses dires, il a présenté aux enquêteurs un message prétendument reçu du numéro de Daniel le jour de sa disparition. Il disait « Salut Stu, merci, tu es pour toujours le meilleur oncle. Dis à maman que je suis vraiment désolé. » Cette information a donné aux parents de Daniel l'espoir que leur fille se cachait quelque part. Cependant, ils étaient extrêmement inquiets qu'elle ne les ait pas contactés jusqu'à présent et qu'elle ne soit pas revenue. Un spécialiste en analyse de texte a examiné le prétendu message de Daniel. Il a constaté qu'il était écrit en majuscules alors que Daniel utilisait normalement des minuscules. Les enquêteurs ont demandé des données au fournisseur de téléphonie mobile de Campbell. Il s'est avéré que l'appel que Campbell prétendait avoir passé à sa femme en rentrant du magasin de bricolage le jour de la disparition de Daniel avait été fait depuis East Loughborough et non de l'endroit où Campbell affirmait avoir été. Mais le plus remarquable était que les signaux des appareils mobiles de Campbell et de Daniel Jones avaient maintes été localisés près de la maison de Campbell et était resté actif encore 30 heures après sa disparition. 30 jours après que Daniel Jones a rompu le contact, ses proches inquiets se sont adressés au public via les médias. Ils espéraient trouver de nouveaux indices et toute information qui pourrait faire la lumière sur l'affaire. La famille a appelé tous ceux qui pourraient être savoir ou avoir vu Daniel, mais qui, pour une raison quelconque, n'avait pas encore communiqué ces informations aux autorités, a partagé enfin ce qu'il savait. Après un certain temps, les proches de Jones, avec des représentants des forces de l'ordre, ont distribué environ 1500 tracts avec des photos de Daniel. Parallèlement, les enquêteurs ont reçu les résultats de l'examen des chaussettes blanches trouvées dans le grenier de Stuart Campbell. Les conclusions des experts étaient inquiétantes. Des traces liées à la fois à Campbell et à Daniel Jones ont été trouvées sur le vêtement. Sur la base des données recueillies, Stuart Campbell a été placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Il a été emmené au poste, où il a été accusé de possession d'images inappropriées. Cependant, cette accusation ne servait que de motif formel pour l'arrestation et permettait aux enquêteurs de poursuivre l'enquête et de préparer des accusations plus graves liées à la disparition de Daniel Jones. Un parent du suspect, lui a rendu visite peu après son arrestation. Après avoir parlé avec lui, le parent a informé les forces de l'ordre qu'il était profondément convaincu que le détenu mentait. Il s'est également avéré que le suspect tenait des notes que les enquêteurs qualifieraient plus tard de journal de la disparue. Il y notait chaque interaction avec elle, que ce soit un appel ou un message envoyé. Ces notes montraient clairement qu'il était excessivement fasciné par elle. Malgré l'absence de preuves concluantes de la disparition, les enquêteurs avaient quand même rassemblé suffisamment d'indices pour porter plainte pour implication dans la mystérieuse disparition. Après l'inculpation, le suspect est resté sous la surveillance des forces de l'ordre pendant près d'un an. Durant cette période, plus de 500 signalements provenant de toute la Grande-Bretagne et d'Europe ont été reçus, affirmant que la disparue était apparemment saine et sauve. Cela a posé des difficultés considérables à la police locale, car chacun de ces signalements nécessitait une vérification approfondie. S'il y avait eu la moindre possibilité qu'elle se trouve encore quelque part et que ce signalement soit passé inaperçu, cela aurait pu être un argument de poids pour les avocats de Campbell devant le tribunal. Dans les mois précédant le début du procès, les efforts pour retrouver Daniel ont été considérablement intensifiés. Il ne s'agissait pas seulement de trouver des preuves clés pour l'enquête, mais aussi d'apporter le réconfort émotionnel si nécessaire à ses proches. 12 jours avant le début du procès contre Campbell, des restes humains ont été découverts. Les enquêteurs ont déterminé qu'ils appartenaient à l'écolière disparue, nommée Millie Dowler. Comme il s'est avéré plus tard, un certain Levi Belfield était impliqué dans sa disparition. Il devrait répondre de ses actes toute une décennie après la découverte des restes de Millie. Le 14 octobre 2002, le procès de Stuart Campbell, l'homme marié à la sœur du père de Daniel, a commencé. Linda et Tony Jones lui faisaient haie confiance. Il se faisait passer pour un parent attentionné. L'histoire de Stuart Campbell soulevait de nombreuses questions. Il était accusé d'un grave délit contre Daniel Jones. Cependant, Campbell semblait confiant et insouciant face aux accusations portées contre lui, sachant que Daniel n'avait pas été retrouvé. Les enquêteurs soupçonnèrent que Campbell communiquait secrètement avec Daniel sans en informer Tony et Linda. Il semblait qu'il était très fasciné par elle et ait essayé de semer la discorde entre la jeune fille et ses parents. Daniel a été vu pour la dernière fois en train de parler avec quelqu'un dans une camionnette bleue similaire à celle de Campbell. Une paire de chaussettes blanches avec l'ADN de Campbell et de Daniel a été trouvée dans le grenier de Campbell. Ses notes personnelles ont révélé un intérêt malsain pour les jeunes personnes. Une pièce à conviction importante était des messages prétendument envoyés par Daniel. Une enquête a révélé que Campbell en était lui-même l'auteur et tentait d'induire l'enquête en erreur. Les données de l'opérateur de téléphonie mobile ont réfuté son alibi. Tout au long du procès, Campbell a gardé le silence. Il ne transmettait que des notes occasionnelles à ses défenseurs lorsque quelque chose ne lui convenait pas. Après près de 3 mois de procès, les jurés ont rendu leur verdict. Stuart Campbell a été reconnu coupable et condamné à une longue peine de prison, avec possibilité de révision après 20 ans. Jusqu'en 2019, le lieu où se trouvait Daniel Jones est resté inconnu. Linda Jones a soutenu une initiative en mémoire de Ellen McCurt, dont le destin a pris une tournure tragique. Cette proposition visait à restreindre les droits de ceux qui retiennent des informations importantes aux enquêteurs. Ellen travaillait dans une compagnie d'assurance lorsque sa vie a pris fin brusquement en 1988. Ian Sims, l'homme lié à sa disparition, n'a jamais révélé toutes les circonstances de l'affaire. L'appel à l'adoption d'une nouvelle loi a recueilli plus de 100 000 signatures et a trouvé un soutien au plus haut niveau du gouvernement. En 2021, un livre intitulé « Mon parent, au passé sombre » a vu le jour, dont l'auteur était Alex Sharkey, le frère de Stuart Campbell. Dans cet ouvrage, Alex partageait ouvertement l'histoire de sa vie aux côtés de son frère et décrivait en détail les événements qui ont suivi la mystérieuse disparition de Daniel Jones. Lorsque deux décennies se sont écoulées depuis la disparition de Daniel, les forces de l'ordre des sexes ont organisé un événement commémoratif en son honneur. Les enquêteurs ont assuré aux proches de Daniel qu'ils ne perdaient pas espoir et poursuivaient les recherches afin que la famille puisse trouver la paix et clore ce triste chapitre de leur vie.